Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL, on retrouve Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Bonjour.
Bonjour Christelle, merci beaucoup. Bonjour les curieux, bienvenue. Vous savez, satisfaire notre curiosité, bah, ça provoque de la dopamine. Et Thomas, Vincent, la dopamine, bah, j'ai dit Vincent parce que c'était un petit teaser, Thomas. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir.
Ah ouais, ça va être ça.
La curiosité, c'est donc l'émission qui met en joie, qui rend heureux. Bonjour Thomas donc.
Bonjour Anaïs, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Vincent Perrault.
Bonjour, je suis dopaminé à fond les amis.
Oui, on est au taquet avec Vincent, vous allez comprendre pourquoi Vincent est avec nous dans 20 secondes. Mais d'abord, tiens, vous nous connaissez, on aime se poser des questions toutes simples liées à notre vie quotidienne. Tout à l'heure, on va tout vous dire sur le pétrole, comment se forment les réserves, qui décide du prix du pétrole et quelle est la part des taxes dans notre litre de carburant. Réponse vers 14h30 sur RTL.
Et tout de suite les curieux, on s'offre bah, tout simplement les plus grandes musiques de films.
RTL.
Thomas Hugues.
Cet homme, c'était Ernesto de la Cruz, le plus grand musicien de tous les temps.
Anaïs Bouton.
De la Cruz, c'est aussi ma famille. C'est normal que j'aime la musique.
Pas question.
La curiosité.
Mais vous ne comprenez pas.
Miguel.
Tu vas écouter ta famille. On a dit plus de musique.
Est un vilain défaut.
Non.
Maman.
Et donc, c'est pour ça que Vincent Perrault est avec nous.
Mais oui, aujourd'hui, on vous emmène au cinéma et on y va avec une des voix bien connues des auditeurs d'RTL. Bonjour donc, Vincent Perrault.
Bonjour Anaïs, bonjour Thomas.
Vous, en fait, salut. Hein.
Ah oui, c'est mon studio du week-end. J'y étais encore hier. Vous voyez. J'ai l'impression d'avoir dormi ici.
Alors, vous allez nous raconter ces musiques de films qui nous ont tant fait rêver, rire ou pleurer. On va consacrer une large partie de notre cabinet de curiosité à Vladimir Cosma parce qu'il sera en concert les 26 et 27 janvier.
Oui, c'est avec RTL.
C'est vous qui avez la joie de présenter cet événement.
Ben c'est un honneur parce que Vladimir est un ami depuis très longtemps et depuis à peu près 10 ans, je présente ses concerts symphoniques en France, dans le monde et je me régale à assister aux coulisses et à l'annoncer sur scène devant un public toujours plus nombreux.
Alors Vladimir Cosma, c'est plus de 400 productions pour le cinéma ou la télé, c'est ça?
Ah, c'est impressionnant.
Alors on va recommencer notre petit quiz musique. Ouais. 1972, écoutez ça Thomas, il est curieux, qu'est-ce que c'est ça?
C'est trop facile. Je suis nul, mais pas à ce point-là.
Bon, c'est quoi, Vincent?
Bah, c'est le grand blond avec une chaussure noire, évidemment.
Est-ce que ce thème-là, la flûte de Pan, c'était prévu dès le départ?
Vous savez, toutes les grandes musiques de films ont une petite histoire, et curieusement, elles ne sont jamais arrivées très très facilement. Et là, on est en 1972, et Vladimir Cosma est un tout jeune compositeur. Hein. Il est arrivé d'ailleurs de Roumanie, il est originaire de Roumanie, de Bucarest, depuis pas très très longtemps. Il a encore beaucoup de choses à prouver. Il a été assistant de Michel Legrand. Grand, il a fait ses premiers pas. Et là, on tombe avec Yves Robert sur un film qui est une sorte de parodie d'espionnage. Et Vladimir Cosma essaie de trouver un concept. Alors il se dit, je vais surtout pas faire de l'anti-James Bond, de la parodie, ce serait trop facile. Et il se dit que cet espion peut peut-être être un espion qui vient du froid, donc des pays de l'Est. Et il se dit qu'il va rendre un hommage à la musique roumaine, au folklore roumain en quelque sorte, légèrement occidentalisé. Mais il utilise la flûte de Pan de Georges Zamphir, le cymbalum, sont vraiment des instruments de là-bas, et il fait quelque chose de très décalé, c'est vrai, mais qui fonctionne super bien avec le film.
Il s'est aussi référé à une autre musique, à la musique de
Jeux Interdits.
Oui, c'est-à-dire qu'il se disait que dans Jeux Interdits, on se souvient tous de la guitare de Narciso Yepes, hein, le thème bien connu, et il s'est dit qu'on pouvait se permettre de mettre un instrument en avant et que ça fonctionnait tout à fait, parce que la guitare avec Jeux Interdits, pourquoi? Mais pourquoi pas? Alors la flûte de Pan dans un film de Pierre Richard, pourquoi? Mais pourquoi pas non plus?
Mais ça, c'est
il s'est dit, si ça a marché avec ça, comme le troisième homme avec la cithare, vous savez, avec Orson Welles, pourquoi? Mais pourquoi pas? Donc ça lui a donné l'envie de faire ça, le courage de faire ça.
Mais c'est une consigne du réalisateur, d'Yves Robert? Comment ça se passe? Comment ils travaillent ensemble?
En fait, c'était un vrai binôme, Yves Robert et Vladimir Cosma. Ils se faisaient une grande confiance, ils étaient tous les deux très amateurs. Il avait le scénario, il avait quelques petites consignes de départ. Yves Robert lui faisait toujours une grande lettre, non pas avec des consignes ou des demandes, mais l'esprit du film. Et ensuite, il le laissait faire. Et d'ailleurs, tout le monde a adhéré immédiatement à cette musique, sauf Francis Weber, qui lui était beaucoup plus dubitatif.
Pourquoi ?
Ben parce qu'en fait, vous savez, un dialoguiste, en règle générale, il aime que ses dialogues soient mis très en avant. Mmh. Il aime pas trop qu'on vienne mettre de la musique, surtout si cette musique prend de la place. Surtout si elle est marquante, si on la remarque vraiment. Et à la fin, il s'attendait à tout lors de la première projection, sauf avoir une sorte de folklore roumain. Bah oui. Et d'ailleurs, il a dit, j'ai l'impression d'avoir assisté à un mariage juif tellement...
on s'y perd, oui, on sait plus où on est.
Il était un peu décontenancé. Mmh. Mais avec le temps, le succès et du film et de la musique, il a évidemment reconnu que c'était un atout énorme pour le film.
Dans le film, Pierre Richard est violoniste, si on se souvient bien.
Oui, oui.
Est-ce que Vladimir Cosma lui a donné des cours ?
Alors, bah, il fallait bien. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Vladimir est violoniste à l'origine. Hein. Et il a fallu quand même au moins que Pierre Richard apprenne à tenir un violon, apprenne à tenir l'archet. Évidemment, ce qu'il jouait, c'était absolument inaudible. Mais au moins, alors ils avaient trouvé un système, ils faisaient le système du tire-tire-pousse. C'est-à-dire que avec l'archet, oui, ouais. c'est radiophonique ce que je fais en ce moment, mais
je mime le violon.
Vous avez un archet, vous poussez, vous tirez. Donc en fonction de la vraie musique, il lui disait tire 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 pousse tire tire pousse tire tire pousse tire tire pousse. Et il a appris comme ça à entre guillemets à jouer du violon, Pierre Richard.
Alors attendez.
Un autre quiz.
Allons-y. 1973.
Oh, c'est super facile. Qu'est-ce que j'adore ce film.
Ah ouais.
Rabbi Jacob.
Salomon, vous êtes juif.
Bah oui, oui, bien sûr.
Et mon oncle est rabbin. Oui, mais il n'est pas juif.
Donc là encore, c'est du Cosma.
C'est encore du Cosma et c'est juste après Le Grand Blond avec une chaussure noire. Mm-hmm. C'est pour vous dire qu'en 2 ans, le jeune compositeur roumain presque inconnu, là c'est l'explosion médiatique et c'est une renommée énorme. Mm-hmm. Alors en fait, juste après Le Grand Blond, François Reichenbach, qui est documentariste et qui est un ami de Gérard Houry, qui a réalisé
Rabbi Jacob
pense qu'il est l'homme de la situation, parce que y a beaucoup... là, pour le coup, il y a de la musique juive, il va en falloir. Ouais. Surtout la scène de danse de Louis de Funès. Il pense que ce jeune Cosma serait très très bien. Seulement, il y a du monde sur le coup, déjà. Il y a Georges Delerue, il y a Michel Polnareff...
Une énorme concurrence, et on va voir comment Vladimir... Cosma remporte la mise Thomas juste dans quelques instants sur RTL.
Après ceci.
On va en faire une autre.
Non, je dois y aller.
Tu ne vas pas t'en aller comme ça, on va leur jouer un morceau qui balance du tonnerre.
La curiosité est un vilain défaut.
On y va. On va vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro.
RTL.
Enfin, c'est-à-dire... Là d'où je viens, c'est un vieux rock bien rétro.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en scie. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre.
Marty McFly dans Retour vers le futur, scène mythique de cinéma pour des musiques mythiques de films que nous raconte Vincent Perrault sur RTL dans La Curiosité. On était donc dans Rabbi Jacob avec Vladimir Cosma qui remporte le match face à Georges Delerue et Michel Polnareff.
Vous savez, ça se fait couramment dans l'univers de la musique de film quand on hésite entre plusieurs styles et plusieurs compositeurs. On leur demande de faire des maquettes. C'est une sorte de concours. C'est rude, hein, parfois. Ouais. Et d'autant que là, il y avait du beau monde et Vladimir Cosma. Tout s'est joué sur la scène des jeunes hassidiques, c'est-à-dire la danse juive de Louis de Funès dans la rue des Rosiers. C'est là-dessus, sur ce morceau, que s'est fait la différence.
Ah, j'adore, j'ai envie de danser dès que je... Non mais c'est génial, tu commences à pencher,
mais vous le faites bien,
à partir. Il me manque les roflaquettes, mais t'as à peine la musique que tu commences à faire des mouvements. Et elle est hyper importante dans le film parce qu'il y a une chorégraphie et il y a de Funès.
Alors, elle est hyper importante parce que c'est pas juste une musique de générique.
Oui.
C'est une musique qu'il fallait composer avant le tournage parce que Louis de Funès, il faut bien qu'il danse sur quelque chose. Il danse là-dessus, donc elle est importante parce qu'elle est chorégraphiée au moment du tournage. Donc il fallait la voir avant, il fallait pas se tromper ni sur le compositeur ni sur la musique. Et d'ailleurs, ce qui est très sympa, et je sais que Vladimir Cosma en garde un souvenir ému, c'est qu'il a collaboré avec Louis de Funès, qui
l'a fait répéter d'une certaine façon,
étudier la chorégraphie, mais oui, au piano et sur le playback chez lui. Donc il a vu cette danse évoluer, se faire devant lui. Et Louis de Funès, qui ne l'oublions pas, était pianiste
dans
sa jeunesse.
Mais oui, il a commencé sa carrière comme ça.
Ça les a énormément rapprochés. Il lui a ensuite écrit une lettre pour le féliciter de la beauté de sa musique. Ce que Vladimir, évidemment, a adoré. Il en a été très touché, vous pensez bien.
Oui, en plus, c'était rare. Il avait été très touché.
Ah bah c'est la seule et unique fois où ça est arrivé dans la carrière de l'un et dans la carrière de l'autre, d'ailleurs.
Alors, on a encore un petit quiz,
Oui, un petit
Anaïs.
Quiz, parce qu'il n'a pas fait que des musiques de films un peu drôles ou comiques. Il a composé ça.
Ah bah oui.
Alors ça, j'avoue, Bon, j'ai mes fiches et mes textes, donc je peux donner la réponse, sauf que si je suis très honnête, je ne sais pas quel film c'est. C'est quel film?
Alors, ce film s'appelle La Septième Cible. C'est un film de Claude Pinotto avec Lino Ventura.
D'accord.
Et comme vous le disiez, Anaïs, si Vladimir est essentiellement connu pour ses musiques de films comiques, hein, les Pierre Richard, les Francis Weber, Louis de Funès, etc., et autres Coluche, Inspecteur La Bavure et tout ça, il a aussi composé des films plus dramatiques, dont cette Septième Cible, qui est une sorte d'aboutissement pour un musicien, parce que c'est pas qu'un musicien de film, Vladimir Kosma, c'est un musicien tout court, hein, qui est chef d'orchestre, arrangeur, compositeur, et là, Pinotto avait besoin d'un véritable concerto. Un concerto pour violon et orchestre qui a été tourné à la Philharmonie de Berlin chez Herbert von Karajan. Déjà, pour un compositeur, avoir sa musique jouée là-bas, c'est pas rien, vous voyez. Et là, il avait besoin, en plus, il n'y aurait pas de dialogue sur cette séquence, c'est un vrai concerto pour violon et orchestre.
Et il a été composé, ou en tout cas mis en place dans des conditions un peu particulières pour Vladimir Kosma. Racontez-nous ça,
Très
Vincent.
Particulière. La musique est importante, vous l'avez compris, parce que là aussi, on en a besoin pour le tournage. Il faut bien que les musiciens jouent quelque chose. Donc, c'était très timé. La Philharmonie de Berlin, c'était tel jour à telle heure pendant 3 heures. Donc, il fallait rendre la musique un jour précis. Et là, Vladimir tombe malade. C'est-à-dire qu'il fait une hémorragie interne due à un ulcère. Il faut l'hospitaliser immédiatement. Un mois avant la livraison d'un concerto pour violon et orchestre. Donc là, rien ne va plus. Et puis on se rend compte que, comme d'habitude, tout le monde est assuré, sauf le compositeur. Donc Gaumont a eu peur, s'est dit « Mais bon sang, si on n'a pas la musique, ça va nous coûter une blinde, on ne peut pas reporter le tournage !» Et Vladimir est à l'hôpital.
Il a fait ça de l'hôpital ?
On lui a amené un piano électrique sur son lit d'hôpital, les partitions, et il a réussi, entre deux perfusions et en un temps record, à écrire ce concerto de Berlin, que Renaud Capuçon vient de reprendre dans son disque cinéma tout récemment. C'est vous dire si cette pièce est considérée comme un classique.
Ce disque est magnifique, on vous le conseille, c'est un bonheur absolu. Tiens, on va vous proposer cette musique tout à l'heure. Destiné.
Mais c'était un message personnel, j'avais écrit tout un petit texte et tout,
vous
Thomas.
Vous pouvez, Thomas, me laisser tranquille avec Anaïs, s'il vous plaît.
Si tous les deux, il n'y a pas de souci pour un slow ultra langoureux. On vous raconte les coulisses de cette musique dans un instant.
La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton.
C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'a initié à la pop musique qu'elle écoutait quand elle était jeune. J'avais ce lecteur sur moi au moment de... Enfin, quand je...
Et Thomas Hugues.
Et on en fait quoi de ça?
Ce qu'on en fait? Bah rien, on écoute. On peut aussi danser.
Sur RTL.
Ils ont fait un film sur ce thème-là, intitulé... Footloose. Un grand film.
On est avec Vincent Perrault, qui est une des belles voix d'RTL et qui consacre un livre à Vladimir.
C'est pas non plus la plus belle voix d'RTL. Hein. La jalousie, tu sais, crasse qui ressort.
Ça va finir en pugilat, cette émission.
Qui consacre un livre à Vladimir Kosma, disais-je. Kosma comme au cinéma chez Hors Collision. Alors pourquoi on est avec Vincent? Mais parce que c'est une belle voix, Thomas.
Mais oui.
Et parce que c'est un fou de cinéma et qu'on a été en train de parler de Vladimir Kosma et de Destinée. Pourquoi alors Destinée, qui est la chanson pour moi du Père Noël, est une ordure.
Et vous avez raison, mais pas seulement, parce que voilà ce qui s'est passé. Destinée a été composée pour le film Les Sous-doués en vacances. Deux ans avant. Oui, on l'entend, là, Guy Marchand, dans son propre rôle, l'interprète déjà dans le film de Claude Zidi, un peu avant. Et ça avait déjà fait l'objet d'un succès. Il se trouve que quelques temps plus tard, Jean-Marie Poiret, le producteur des Père Noël est une ordure, demande à Kosma de faire la musique du film. Et puis, il y a la fameuse scène du slow entre Thierry Lhermitte et Christian Clavier, vous en souvenez.
Bronson.
Oui, voilà.
C'est le surnom de Christian Clavier.
Où ils sont à un mètre l'un de l'autre pour danser. Oui.
Enfin, surtout
et
Thierry Lhermitte.
Il se trouve.
Sans clavier, il aimerait bien. Sans clavier, justement.
C'est ça. Il se trouve que ça devait être tourné sur une chanson de Julio Iglesias. Parce que Zezette, vous vous souvenez de Zezette épouse X ou veuve Y? C'est une fan, ça c'est vous qui le savez.
Non, c'est la citation exacte du film.
Elle est fan de Julio Iglesias. Et la séquence doit être tournée sur une chanson d'Iglesias. Mais au moment du mixage du film, les droits d'utilisation de Julio Iglesias sont tellement énormes que le producteur dit non, attendez, on va pas mettre un prix pareil là-dedans, débrouillez-vous avec Kosma. Et Jean-Marie Poiret appelle Vladimir en lui disant « C'est la catastrophe, on ne sait pas sur quoi, quelle musique mettre sur le thème du slow. » Et Vladimir dit « Mais la chanson Destinée irait très bien. On était tous les deux destinés pour les deux, on aurait voulu le faire exprès, ça irait pas mieux. » Il a demandé à Guy Marchand, ok. Il a demandé à Claude Zidi, ok. Et Vladimir a réussi le tour de force dans deux films différents à faire deux fois un tube avec la même chanson, ce qui est quand même unique au monde.
C'est quand même très fort. Cosma, Vladimir Cosma, comme au cinéma, c'est le titre de ce livre d'entretien avec vous, Vincent. Mais on ne va pas parler que de Vladimir Cosma. Tiens, voilà une autre musique, ça tient quoi? À quatre notes, un succès. C'est signé, évidemment.
Francis Lay. Ça nous permet de lui rendre hommage, bien puisqu'il sûr. Nous a quittés il y a un mois à peine. C'était un homme formidable et un immense compositeur, oscarisé à Hollywood pour Love Story, je le rappelle. Et alors voilà encore une grande musique qui a une petite histoire amusante.
C'est Claude Lelouch qui vient le chercher, on imagine.
Alors, pas tout à fait. Ouais. C'est par l'intermédiaire de Pierre Barou, qui est comédien dans un film de Lelouch. Et Pierre Barou, alors que Lelouch prépare un homme et une femme, dit à Claude: tu sais, je connais un jeune accordéoniste, il arrive de Nice, il n'a rien fait, mais il fait de la musique comme toi tu fais les images, et ça devrait, le mariage devrait être assez étonnant. Claude Lelouch, qui aime énormément la musique, son cinéma nous l'a montré à différentes reprises, va un jour voir Francis Lay dans son petit studio de Montmartre. Et puis Francis Lay, avec son accordéon, lui fait écouter des musiques. Oui, ça lui plaît, Lelouch, mais il n'est pas plus emballé que ça. Et il s'apprête à repartir en disant: bon, bah, on verra, un autre jour. Et Francis lui dit: écoutez, Claude, j'ai un thème qui n'est pas fini. J'ai juste le tout début, je vous le fais dans le cas où, au moment où il allait partir. Hein. Mmh. Et là, il lui fait: stop, ça s'arrête là. Et Claude Lelouch dit: j'achète, c'est ça.
C'est génial.
Ce sera ça, la musique du film. Et c'est devenu une musique qui a fait le tour du monde.
C'est
incroyable à quoi tiennent les choses.
La chair de poule. Ouais. Tiens, un autre très grand des musiques du film, on ne peut pas faire cette émission sans écouter l'un de ces films, c'est... Ce n'est pas une publicité pour de la nourriture. Je ne pouvais pas ne pas faire cette mauvaise blague.
J'étais sûr que vous alliez le dire.
C'est pour ça que je m'en suis chargé.
Vous allez vous faire un ami d'Ennio Morricone en disant ça.
Je sais que ça l'agace parce qu'on avait fait ensemble une émission sur Ennio Morricone. Et Ennio Morricone, très grand compositeur.
Immense.
C'est la musique du professionnel.
Moi, je dirais un des cinq plus grands au monde. Hein. N'allons pas chercher plus loin.
Il est en concert encore, lui ?
Oui, il est en tournée mondiale, en tournée d'adieu, parce qu'il commence à avoir un certain âge et il est en train. Il a fait un triomphe à Bercy le mois dernier et il parcourt le monde avec ses plus grandes musique et orchestre symphonique.
Et donc, Vincent, la musique du professionnel...
N'est pas la musique du professionnel.
Ah, j'adore. Ah. C'est quoi, alors ?
Ben non. En fait, tout le problème vient de là. C'est une musique d'un petit film italien qui s'appelait Maddalena, qui n'était jamais sorti en France. Et son éditeur français était allé fouiller dans les bandes à Rome et avait craqué pour ce thème, qui est vraiment un thème secondaire d'un film inconnu. Et il s'est dit, Georges Marie en l'occurrence, c'est un thème qui a un potentiel énorme. Et il le propose à la BBC pour une série de documentaires. Ça marche. Ils font un succès de 45 tours avec ça. Ils ramènent le 45 tours à Paris et c'est mis dans le jukebox de Jean-Paul Belmondo, dans les bureaux de Belmondo. Et c'est un thème qui revient de temps en temps comme ça. Toute l'équipe prépare le professionnel. On décide de prendre Morricone. Il écrit une musique spécialement pour ça. Mais sauf que tout le monde repense à ce fameux Kimai. Et Belmondo dit: je voudrais ça pour la musique du film. Alors là, tout le monde dit: ah oui, mais attends, le maestro a écrit une... Oui, mais je m'en fous, dit Belmondo. Moi, je veux ça. Parce que c'est exactement le symbole musical de Jos Beaumont dans Le Professionnel. Il a fallu transiger. Morricone l'a très mal pris pendant des années, d'avoir travaillé quand même un peu pour rien. Et Kimai a fait 3 millions d'albums. Mais la musique du professionnel n'est pas la musique du professionnel. Et elle vient d'ailleurs, avant de devenir Royal Canin. comme vous le savez.
Allez, d'autres grandes musiques de films. Et un nom qui est sans doute moins connu en France. Et pourtant, que d'Oscars remportés par cette Hans Zimmer. On vous en dit un mot dans un court instant. Et puis juste après, le pétrole. Ça vient d'où le pétrole? Et comment vient-il de l'extraction, en passant par les raffineries, jusqu'aux stations-service et à nos voitures? À tout de suite.
RTL.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.
Thomas Hugues.
Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein.
Anaïs Bouton.
Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention.
Hein. La curiosité est un vilain défaut.
C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Ah, la grande vadrouille.
Ouais, on dirait Coralie Dutenier quand elle débriefe nos émissions. Vous, c'était bien. Vous, c'était... Non, c'était comme ci, comme ça.
Vincent Perrot, on est avec vous. Vous consacrez un livre à Vladimir Cosma. Et puis, on retrouve Vladimir Cosma en concert les 26 et 27 janvier au Grand Rex.
Au Grand Rex, oui.
Avec vous, on a écouté quelques-unes des musiques les plus mythiques, des films les plus mythiques aussi. Et on ne peut pas se quitter sans parler de Hans Zimmer.
Oui, alors il fait partie des grands compositeurs de l'histoire de la musique de film. C'est un homme d'origine allemande qui a beaucoup travaillé ensuite en Angleterre, proche même des Buggles et de Video Kill de Radio Stars, avec plein de copains à lui. Il a commencé la musique de film. C'est, si vous voulez, c'est un grand compositeur, c'est indéniable. Tout le monde croit qu'il a eu plein d'Oscars, il a été souvent nominé, mais il a quasiment jamais rien eu.
Ah bon, je croyais qu'il...
Le Roi Lion, un seul. Hein,
c'est
Michel
mal,
Legrand en a eu plus, hein, ouais, vous savez. Ouais. Mais il a instauré un système, c'est-à-dire qu'il a instauré une sorte d'usine, usine à blockbuster, avec d'autres compositeurs, des collaborateurs. On ne sait d'ailleurs jamais trop qui fait quoi dans tout ça. Il fait travailler ses collaborateurs, il en met un sur Pirates des Caraïbes et tout ça. Et puis, alors, lui est capable de faire de grandes mélodies, mais il faut quand même reconnaître que depuis 10 ans, où la musique de film est très formatée en Amérique, son inspiration s'est très formatée à lui aussi. Hein.
Et alors, si vous deviez en citer un anglo-saxon particulièrement marquant, c'est qui?
Oh bah, John Williams. John Williams, lui, si vous voulez, c'est tous les films de Spielberg, c'est
ça,
les films de George Lucas.
Je me souviens plus quel film c'est ça.
Oh, La Guerre des Étoiles.
Ça
restera peut-être dans l'histoire. Non, lui, il a remporté 5 Oscars. Il est le recordman de nomination. Mais attention, je ne dis pas qu'Hans Zimmer n'est pas un grand musicien. Ouais. Mais il a mis un système un peu particulier qui lui permet de faire 20 films par an, si vous voulez, sans les faire vraiment. John Williams, il écrit, il compose, il arrange, il dirige l'orchestre. C'est un vrai musicien de film par excellence et qui a fait des films et des musiques qui resteront dans l'histoire incontestablement.
Merci Vincent.
Merci beaucoup.
Du bonheur
Vincent.
De vous avoir.
Merci beaucoup les amis. À très bientôt.
Ouais, dans votre studio.
On vous le rend propre. Hein,
alors on rappelle prochain. Le titre de votre livre, Vladimir Cosma, comme au cinéma, publié chez Hors Collection. Et puis vous serez avec
sur scène.
Vladimir Cosma au Grand Rex les 26 et 27 janvier pour ce prochain en partenariat avec RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.